Secours populaire, tout ce qui est humain est neutre.
Le quart d'heure solidaire, chronique du Secours populaire de l'Ain. Bonjour tout le monde, salut Jean-Paul, mon vieux camarade de radio pour cette émission. Alors aujourd'hui, il sera question d'un aspect théorique. On parlera des associations, de leur vie, de leurs avantages, de ce qu'elles représentent dans notre histoire. Rapidement, mais Jean-Paul est très bien documenté, et après une pause musicale, on parlera plus précisément de l'action du mois de janvier qui s'intitule « Don Action ». Voilà, alors Jean-Paul, l'association...
Bonjour Jean-Claude d'abord, bonjour à tous. Alors oui, je voulais revenir un petit peu sur les associations d'une manière générale et puis ces fameuses associations loi 1901. Alors, qui est très marqué en France et qui se rattache à une histoire qui a le mérite d'être contée et pour vous d'être connue. Alors, avant le 1er juillet 1901, bien entendu, les associations existaient en France. Alors, sur des formes qui étaient plus ou moins reconnues, avec des connotations professionnelles, c'est ce qu'on appelait les corporations, des connotations religieuses, des confréries, des congrégations, voire philosophiques, des clubs ou, par exemple, les loges maçonniques. Et c'est la Troisième République, donc là, il faut vous situer entre 1880 et 1898, quasiment 1900, pardon, toute une série de textes vont garantir les grandes libertés. La presse, les réunions, les syndicats, la mutualité. Et le 21 mars 1884, la légalisation de la loi sur les syndicats. Donc vous voyez, c'est quand même relativement récent. Ça ne vient pas du Moyen-Âge. Et puis, en 1889, Waldeck Rousseau arrive à la tête du gouvernement d'Union nationale. Et c'est grâce au combat qu'il mène depuis 20 ans que sera promulguée cette fameuse loi du 1er juillet 1901, une loi relative au contrat d'association. Alors, ce qu'il faut retenir, mis à part ces petits points historiques, c'est qu'en France, il y a une liberté d'association qui a été reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est reconnue par le préambule de l'actuelle Constitution française. Pour la Constitution, deux membres suffisent, aucune autorisation n'est à demander, aucune déclaration n'est à faire. Et pour l'organisation et le fonctionnement, les membres n'ont aucune contrainte et aucune obligation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en matière de liberté d'association, c'est quasiment une loi qui est unique au monde. Ce qui veut dire qu'elle est toujours à défendre et parfois, il faut même résister pour qu'elle puisse continuer à s'appliquer. Alors, c'est bon Jean-Claude, tu n'as pas de questions ?
Non, je n'ai pas de questions, mais bizarrement, j'ai une remarque. Par rapport à ce que tu as dit, il y a une période de notre histoire dans laquelle la liberté d'association a été permise. C'est une période bien précise, qui en dit long d'ailleurs sur l'histoire des révolutions. C'est la période 91-94, c'est-à-dire c'est l'apogée de la Convention. C'est quand un peu beaucoup de choses ont été permises, même si on retient souvent de cette période la fameuse terreur qui aurait, selon laquelle tout le monde aurait été égorgé, enfin, quand on appartenait soit au clergé, soit à la noblesse. Qui est, à mon avis, assez loin du compte. Mais il y a une période courte et la, entre guillemets, réaction thermidorienne a tout de suite mis fin à cette liberté. Voilà,
une petite remarque. Ce qui a tendance à prouver que ça peut faire peur, la liberté de s'associer.
Exactement. Ouais.
Alors, je vais revenir à mon petit quiz. Et donc, vu que tu es le seul public présent, tu vas devoir t'y coller. Mais comme ça, on pourra... se rendre compte si, oui ou non, tu as été attentif. Alors, première... Donc, tu réponds par vrai ou faux, hein, tout simplement. La déclaration à la préfecture est obligatoire.
Faux.
C'est parfait. Il est très fort, quand même. Effectivement, hein, comme je l'ai évoqué, rien dans la loi 1901 ne rend obligatoire la déclaration de l'association. Il s'agit d'une association, de fait, qui ne jouit pas de capacité juridique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Vous pouvez vous associer avec un copain, un voisin, n'importe qui, pour pratiquer tout et n'importe quoi, les échecs, la musique, etc. Et effectivement, vous n'avez pas d'autorisation à demander, d'autant moins à la préfecture, mais... À un moment, voilà, si vous estimez que vous avez besoin d'avoir des moyens financiers, c'est-à-dire par exemple un compte en banque, là vous allez devoir effectivement rentrer dans un aspect juridique et vous aurez besoin de faire une déclaration. Alors j'insiste sur le terme déclaration, c'est uniquement déclaratif, à la préfecture qui va vous enregistrer et ce qui vous permettra d'ouvrir tout simplement un compte en banque, par exemple. Alors, on fait quelque chose de plus compliqué ?
Ouais.
Alors, pour diriger une association, il faut obligatoirement un président, un trésorier et un secrétaire.
Faux.
Oh, il est trop fort, il est trop fort, il est trop fort. Effectivement, l'organisation de l'association n'est pas mentionnée dans la loi. Donc, ce qui veut dire qu'on peut la fixer librement. Qui plus est, et je vous rappelle sur ce que j'ai évoqué précédemment, deux personnes suffisent tout simplement pour créer une association. Allez, une petite dernière. Une association à but non lucratif ne doit pas faire de bénéfices.
Ah si, elle peut faire du bénéfice, mais qui ne peuvent pas être partagés par les membres.
Alors c'est vrai et faux. Vrai, dans la mesure où effectivement... Idéalement, on ne parlera pas de bénéfices pour une association, mais d'excédents.
Ouais,
faux, puisqu'il est tout à fait recommandé pour les associations de produire des excédents raisonnables, qui sont le reflet d'une bonne gestion. Nous sommes dans un monde de gestionnaires, quand même. Voilà. Alors, je tiens à féliciter Jean-Claude, qui est un vieux lascar qui connaît bien le monde associatif.
J'ai beaucoup travaillé avant de venir. Pour ça.
Oui, puis d'ailleurs, en termes d'association, nous sommes bien dans une radio associative.
Voilà.
you a sweater. Wanna write you a love letter. Wanna make you feel better. Wanna make you feel.
C'était la grande Joni Mitchell qui s'est immiscée dans notre quart d'heure solidaire. Alors maintenant, on va aborder le grand thème du mois de janvier, le don action.
Alors ça, effectivement, c'est le grand moment de ce début d'année, le don action. On a évoqué ici des campagnes du Secours populaire qui sont assez spécifiques, la dernière en date étant les Pères Noël verts. Sachant que les collectes qui étaient réalisées, si vous en souvenez, sont à destination de ces fêtes de fin d'année. Et les Pères Noël verts sont là pour aider et filer un coup de main au Père Noël traditionnel qui est rouge, comme chacun sait. Le don action, en fait, c'est une grande tombola qui est organisée sur deux plans, un plan national et un plan départemental. Et cette collecte, donc, vous allez acheter des billets de tombola de façon tout à fait classique, mais le résultat de cette collecte, en fait, il sert à financer le fonctionnement du Secours populaire. C'est pour ça qu'on l'appelle le don action, c'est donner pour agir, tout simplement. Donc, vous avez une campagne au niveau national qui va se terminer le 21 mars avec un tirage au plan national. Alors, c'est une tombola. Il y a à gagner, par exemple, des séjours à Disneyland et bien d'autres lots, dont la liste, il faut le savoir, elle est disponible sur le site internet du Secours populaire. Et vous aurez un tirage départemental en amont qui aura lieu le vendredi 14 mars. Et pour lequel il y aura un certain nombre de lots aussi qui sont en fait des choses qui viennent de collectes diverses et variées. Donc vous allez pendant ce début d'année rencontrer localement des animateurs, collecteurs, bénévoles du Secours populaire qui vont vous proposer des billets de tombola à 2 €. Vous laisserez vos coordonnées et vous avez possibilité de gagner des choses incroyables et extraordinaires jusqu'au plan national. Est-ce que tu as tout bien compris, Jean-Claude ?
À peu près, mais moi, je n'ai jamais gagné. Alors, je me demande si ce n'est pas un...
Moi non plus, mais bon, il y a des gens qui gagnent hein, quand même.
Ouais, j'en doute pas, mais je pense que pour les bénévoles du Secours populaire, ça il doit y avoir un truc.
Oui, oui. Après, ce qu'il faut bien que les auditeurs retiennent, c'est que c'est vraiment une source de financement qui est réservée au fonctionnement, hein, qui ne va pas être dirigée, par exemple, aux vacances, quand c'est la campagne des JOV, aux fêtes de fin d'année, aux cadeaux, aux jouets, aux repas festifs. C'est vraiment le fonctionnement.
Ou à la semaine des oubliés de la culture.
Ou à la semaine des oubliés de la culture. Il faut que chacun pense bien que dès qu'on va ouvrir la porte d'un local, on dépense de l'argent, peut-être pour louer le local, pour le chauffer, pour un véhicule, etc. Mais tout ça, c'est pour agir et exercer la solidarité jour après jour.
Voilà. Alors, moi, ce que je pense vous dire en vous souhaitant une très bonne année 2025 et dans ce monde si paisible dans lequel nous vivons, où les catastrophes se succèdent aux intempéries et aux désagréments politiques en tout genre, pensez à la solidarité, pensez au Secours populaire ou à toute autre forme de solidarité. Voilà, bonne année 2025 et à bientôt. Ciao, à bientôt Jean-Paul.
À bientôt Jean-Claude et bonne année à tous.
Secours populaire, tout ce qui est humain est nôtre.
Le quart d'heure solidaire, chronique du Secours populaire de l'Ain.